son père grec, et il avait aussi le privilège d'avoir une grand-mère qui s'appelait Loïs. Ce garçon avait un témoignage très bon. C'était un disciple, et la Bible nous dit que les frères rendaient un excellent témoignage de lui. Je disais aux jeunes, c'est un privilège de pouvoir recevoir quelqu'un à sa table, un serviteur de Dieu, un homme et une femme, ou une femme de Dieu. Et puis, je disais aux jeunes, lorsque j'avais 15 ou 16 ans, j'ai eu le privilège de déjeuner, dîner à plusieurs reprises avec l'homme le plus fort du monde. Mais ça n'a pas marqué ma vie. J'ai gardé un souvenir. Et on va garder le souvenir de certaines rencontres, de certaines relations avec des hommes, des femmes, des enfants. Et la Bible nous dit que ce garçon fut Timothée. Timothée, nous dit la Bible, Paul l'ayant pris. Et il l'emmena avec lui. Et je crois que jamais Timothée n'a regretté un seul instant d'avoir été pris par la main, par l'apôtre Paul, et par la grâce de Dieu, il est devenu ce qu'il est devenu. Et Paul lui a confié ensuite l'église d'Éphèse, où c'était une lourde responsabilité. Laissons-nous prendre par la main. Laissons-nous prendre les jeunes gens, les jeunes filles, les enfants par la main, pour qu'on puisse vous conduire un peu plus loin sur le chemin de Dieu. Un jour, mon pasteur m'a dit, tu vas apporter la parole de Dieu à une réunion de prière dans telle église. J'étais jeune, c'était après la Pentecôte 1965, sauf erreur. Et puis, je m'étais consacré. J'étais déjà consacré, mais ce rassemblement de jeunesse, nous étions environ 500. Et puis je me suis approché et j'ai dit au Seigneur, je me consacre au corps, à mes esprits. Et quelques jours après, ce jour de Pentecôte, voilà ce que le pasteur a fait. Et j'ai prêché. Et un ancien est venu me dire merci, m'encourager, et il m'a dit, c'est formidable, tu parles bien, tu as des bonnes pensées, continue. Puis un jour, il y a quelques années, j'ai mis un grand nettoyage dans toutes mes archives, et j'ai jeté au moins 400 kilos de papier. Et j'ai regardé ma première prédication. Et je dois dire, Seigneur, quand j'ai lu ça, je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible, Seigneur. Qu'est-ce que j'ai dû couper comme oreille? J'étais d'une sévérité, d'une dureté incroyable. Et je dis, Seigneur, heureusement que j'ai changé. Mais je dois vous dire que cette première prédication, je l'ai jetée, je l'ai déchirée, jetée. qu'est-ce que j'étais dur. Puis il y a peut-être 10 ans, je me trouvais arrosé et j'aurais dit, voilà, il y a tant d'années, je vous ai apporté ce message. Et je vous le dis, mais vous allez voir si j'ai exactement encore le même message, parce que je vais le reprendre mot à mot. Et m'ont dit, mais c'est toujours le même message. C'est formidable. Quand l'Esprit de Dieu nous prend par la main. Et je dis aux jeunes, laissez, jeunes gens et jeunes filles, laissez-vous prendre par la main. Laissez-vous entraîner dans l'Église. Investissez-vous dans la musique, dans le chant, dans le témoignage. Investissez-vous dans telle chose et telle chose. Et dans ce que Dieu vous demandera. Et que Dieu nous bénisse et nous donne sa grâce particulière. Il n'y a pas d'âge. Abraham, sa vie a changé à l'âge de 75 ans. Par la chair, par la vue, je ne me verrai pas faire ces quelques milliers de kilomètres du camping, troupeau, etc. Mais Dieu savait ce qu'il faisait. Quel que soit notre âge, Caleb, 80 ans, il avait encore toute sa vigueur, comme à 40. Ce qui veut dire que Dieu veut nous entraîner dans son amour et dans sa grâce, à travailler avec lui et à travailler aussi avec nous. Je voudrais donc ouvrir la parole de Dieu dans la deuxième épître de Paul à Timothée, puisque cet après-midi, nous allons voir dans les derniers jours le message de Dieu. Sache que de Timothée, chapitre 3, partir du verset 1er. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Et puis, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel, et au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle ?» Et il va nommer toutes ces personnes qui venaient de tel et tel endroit. Verset 16e. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Verset 47e. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Gloire à Dieu. Ce matin, nous nous sommes arrêtés sur le jour de la Pentecôte. D'un côté, 120 dans une maison, dans une chambre haute, car avant l'élévation de Jésus dans sa gloire, Jésus avait dit, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Et donc, ils sont restés là, dans la chambre haute. Et d'un autre côté, c'était le temple. Et là, selon les historiens, il y avait en général 1 million de pèlerins, des hommes pieux. Il y avait les femmes, il y avait les garçons et les filles. C'était le pèlerinage en famille. On lisait le livre de Ruth, on commémorait la loi, on remerciait Dieu pour les bonnes récoltes. C'était un moment d'action de grâce. D'un côté, la chambre haute, et de l'autre côté, le temple. Et la Bible nous révèle qu'en réalité, il y eut un bruit, comme un bruit venant du ciel de gloire, et ce fut là le baptême dans l'Esprit de Dieu, ce fut aussi la présentation du bon berger du Seigneur Jésus-Christ, et une certitude que Jésus ressuscité était auprès du Père, parce qu'il avait donné cette parole qu'il baptiserait dans le Saint-Esprit. C'était donc quelque chose qu'il vivait, quelque chose qui les plaçait aussi devant leur mission universelle, de prêcher la repentance, de prêcher aussi le pardon des péchés, de prêcher aussi la guérison divine, de prêcher les différentes promesses de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce fut le commencement de la grande moisson d'âmes, commencement de la moisson spirituelle. Et pour la première fois dans le livre des Actes, on voit que le Seigneur a ajouté à l'Église ceux qui étaient sauvés. Je le constate dans cette grande confusion religieuse, dans notre 21e siècle, il y a ceux qui se sont ajoutés eux-mêmes à l'Église, ceux qui n'appartiennent pas à l'Église, et ceux vraiment que le Seigneur ajoute à son Église. Et je veux croire que cet après-midi, aucun d'entre nous ne s'est ajouté de lui-même à l'Église, mais que le Seigneur nous a ajouté à son Église et que nous sommes pierre vivante. Et c'est une grâce toute particulière. Et je voudrais cet après-midi réaliser, parce que parfois on voudrait bien retourner sur le lieu où nous avons expérimenté les grâces et les bénédictions de Dieu. Il y a quelque temps de cela, des hommes et des femmes en grand nombre, et beaucoup même de pasteurs, sont allés à Jérusalem au moment de la Pentecôte parce qu'ils voulaient recevoir à nouveau un renouvellement de l'Esprit Saint, et à partir de Jérusalem, le feu allait se répandre à nouveau de par le monde entier. Tous ces pèlerins sont allés, sont rentrés dans leur nation, et la vie de l'Église a continué à se faire, mais ce phénomène international ne s'est pas produit. Nous devons veiller dans notre vie spirituelle, nous qui avons faim et soif, de voir la gloire de Dieu. Nous avons soif de voir une vie de victoire, une vie de profondeur, une vie de sainteté. Mais que fait Dieu dans ces derniers jours? Puisque nous avons lu dans l'épître de Paul à Timothée que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et les derniers jours ont commencé le jour de la Pentecôte, avec l'Église, la naissance de l'Église. Et Pierre dira « dans les derniers jours ». Et donc, dans le jour de la Pentecôte, c'est entré dans les derniers jours. Et vous avez remarqué, dans un évangile de Jean, il est fait mention de la dernière heure. Et l'apôtre parle, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, c'est-à-dire une période où tout sera ravagé. Le psalmiste pouvait dire, quand les fondements sont renversés, que ferait le juste? Quand les fondements sont renversés, d'une manière internationale, les fondements sont renversés. Notre nation n'y échappe pas. Nous sommes là témoins, spectateurs. Et en tant que citoyens, nous prions aussi pour notre nation. Nous prions parce qu'une Église remplie de l'Esprit Saint, qui prie le Seigneur, eh bien, ça empêche la progression du mal. Ça empêche aussi la venue du faux prophète avec toutes ses doctrines sataniques, ça empêche pour l'instant la venue de l'Antichrist. Mais quand ça sera l'heure, l'Église sera enlevée. Mais néanmoins, la parole de Dieu nous révèle que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. N'allons pas revenir sur ce que la Bible nous parle concernant la situation de l'être humain, concernant aussi cette apparence de piété. Devrions être sages, aussi avoir le bon sens. Quand le Seigneur Jésus nous dit « Gardez-vous des faux prophètes », ça veut dire qu'il y en a des faux prophètes. Gardez-vous des faux docteurs, parce qu'il y en a aussi. Et nous croyons parfois dans tout ce que ces gens disent, parce que nous sommes toujours émerveillés par les belles paroles, ce vocabulaire si riche, oh, c'est formidable. Oui, mais Jésus, certes, avait un très beau vocabulaire. C'est l'intelligence par excellence. Mais il savait parler aux enfants. Il savait parler à la jeunesse. Il sait parler à chacun. Mais vous avez remarqué aussi, c'est que Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et il y a les fruits qui suivent. Quels sont les fruits que certains hommes religieux sont en train de porter à l'heure actuelle? Eh bien, ils sont ténébreux, ils sont sales, ils sont répugnants. Vous avez remarqué, de par le monde entier, tout ce que l'on peut voir, entendre. Mais le Seigneur nous a avertis, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, des temps où tout sera ravagé. Alors qu'allons-nous faire? Eh bien, nous avons la réponse. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est-à-dire sur celles et ceux qui sont nés de Dieu, nés de Jésus-Christ. Et quand on est né de Dieu, né de Jésus-Christ, quand on a cette nouvelle naissance spirituelle qui vient d'en haut du ciel de gloire, on est régénéré, on est enfant de Dieu, on est adopté, on est fils de Dieu, on est enrichi spirituellement et on marche avec la grâce et la bénédiction du Seigneur. Cette génération, nous dit la Bible, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant une apparence de la piété, une apparence. Il est sûr que la parole de Dieu nous dit aimant le plaisir plus que Dieu. Je répandrai de mon esprit. Je crois que c'est là quelque chose d'important. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis. Ce n'était pas prévu. Mais le mouvement charismatique, nous l'avons vu naître. Nous l'avons vu naître, le mouvement charismatique. Et on nous disait que les catholiques romains étaient baptisés de l'esprit, sans repentance, sans conversion. C'était un bouleversement. Et je me souviens, dans l'église dans laquelle j'étais, comme tous les pasteurs, on disait pour être baptisé du Saint-Esprit, il faut être né de Dieu. Il faut être né de Jésus-Christ. Il faut vraiment être régénéré. Et on nous disait aussi que l'on pouvait Il y a eu des manifestations où on nous disait, vous savez, maintenant on adore plus que jamais encore Marie. Parce que des parlers en langue prouvent. Je me souviens un jour, un prêtre qui nous a dit, vous savez, on est allé prêcher pour voir une telle personne qui allait écrire un livre sur le contre le parler en langue. Alors le prêtre que j'avais entendu, il dit, j'ai dit au prêtre là qui était en train de fumer sa pipe, vous posez votre pipe là, j'impose les mains, et puis quand j'ai fini d'imposer les mains, vous parlez en langue. C'est pas sérieux quand même. C'est pas sérieux quand même. Il faut être sanctifié aussi, hein. Eh oui, il faut être né de nouveau. Il ne s'agit pas de dire quelques mots et de plaisanter, de gazouiller. Le parler en langue est une réalité. Et ça, il faut être né de Dieu. Il faut être né de l'Esprit de Dieu. C'est une réalité. Les dons des langues. Et on voit tous ces hommes, ces femmes qui disaient les merveilles de Dieu. C'était extraordinaire. Extraordinaire. Je me souviens quand j'étais nouveau dans la foi, j'ai été baptisé de l'Esprit. Et puis, quelques personnes m'ont dit, tu sais, ton parler en langue, c'est quand tu parles, c'est de l'anglais. Et je me souviens un jour, il y avait un frère évangélique, pas ouvert à la Pentecôte, mais comme il n'y avait qu'une église des assemblées de Dieu dans cette ville, et lui était ingénieur, et il travaillait avec un autre ingénieur, chrétien, pentecôtisé, assemblée de Dieu. Alors il lui dit, viens à l'église, et voici que je parle en langue. Et puis un chrétien interprète. Et le chrétien évangélique, il dit, mais je suis bouleversé. Pourquoi je suis bouleversé? Parce que j'ai entendu le pasteur parler en langue, et le chrétien lui dit, il ne parle pas en anglais en plus, c'est de l'anglais, et j'ai entendu l'interprétation. C'était un mystère pour lui. Et c'est pour ça que je n'ai jamais appris l'anglais, parce que ça allait me peur de me créer de confusion dans ma tête. Je me souviens un jour dans un rassemblement de pasteurs. Un pasteur ne parlant pas l'hébreu a parlé en langue en hébreu. Il y avait quelqu'un qui était aussi, qui connaissait l'hébreu dans ce rassemblement des pasteurs. Et l'interprète a donné le don d'interprétation, le frère a donné le pasteur, et c'est exactement, c'est formidable, la pensée de l'Esprit de Dieu. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Le parler en langue est une réalité. Et bien aimé, dans ces temps difficiles, Dieu dit, je répandrai de mon Esprit. Pour que nous soyons des témoins, pour que nous ayons aussi une vie spirituelle forte, triomphante, extraordinaire. Que le Seigneur nous bénisse. Vos fils et vos filles prophétiseront. Prophétiseront. Jeunes gens et jeunes filles, la parole de Dieu dans l'Évangile, dans l'Épître de Jean, révèle que vous êtes forts. Vous êtes forts, jeunes gens. Pourquoi vous êtes forts? Parce que vous avez vaincu le malin. Parce que vous avez la parole de Dieu. Vous êtes forts. Et voyez-vous, j'aime cette photographie. Il parle des petits-enfants, il parle des pères, et il parle des jeunes gens. Moi, j'aurais fait tout le contraire. J'aurais fait tout le contraire. C'est une photographie en quelque sorte. J'aurais mis les pères, les jeunes et les enfants. C'est une logique. Mais ma logique est illogique. C'est comme si sur le parvis, on va prendre la photo après la réunion, et vous savez comment c'est avec les marches, les adultes en haut, les jeunes en dessous l'autre, et sur le macadam, les petits. C'est logique. Mais l'apôtre dit les pères au milieu. Les enfants sont à côté et les jeunes là, gauche et droite. Les pères en plein milieu. Ça veut dire que les enfants, quand ils regardent les pères, quand les jeunes regardent les pères, c'est leur point de référence. Et je crois que dans le domaine spirituel, chacun est un point de référence, mais les jeunes, garçons et filles, la parole de Dieu, elle demeure en vous. Et vous avez vaincu le malin. Et dans une période où tout est ravagé, il faut vous déterminer. Il faut affirmer votre foi. Il faut marcher avec le Seigneur. Ces gens n'affirment pas leur foi. Ils affirment ce qu'ils font. Ce qu'ils font. Ils affirment et vous affirmez votre foi. Soyez sages, bien sûr. Je me mets à votre place. Les choses ont changé. Mais fut une époque qu'on allait à l'école jusqu'au samedi soir. Du lundi au samedi soir, une journée de repos. Et fut une époque aussi où les hommes travaillaient jusqu'au samedi soir. Et le samedi après-midi, ils allaient voir l'employeur et l'employeur leur donnait l'argent, leur paye. Ah, fallait attendre, hein. C'était comme cela à l'époque. Et donc, c'était comme ça on faisait. Donc, on n'avait pas de temps libre. Alors, quand on disait aux jeunes, « Qu'est-ce que tu as fait le samedi soir ?» Oh, le samedi soir, c'était mon cas. Ben, j'arrivais du travail, je voyais ma fiancée, mais je rentrais tout de suite à la maison, et puis on prenait le repas, et en famille, on restait jusqu'à minuit, 2h, 3h du matin en prière. C'est là, dans la nuit, à 2h30, que j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que tu as fait ? Samedi soir, je suis allé à la réunion de prière. Et le dimanche, qu'est-ce que tu as fait ? Je suis allé au culte. Et le dimanche après-midi, qu'est-ce que tu as fait ? Je suis allé à l'évangélisation. Et j'étais heureux. J'étais heureux comme tout. Bien sûr, quand on devait m'écouter, on disait « Le pauvre, c'est vraiment de l'esclavage. » C'est vraiment de l'esclavage. Oui. Mais qu'est-ce que je faisais avant de connaître Christ ? Le samedi matin, je me levais très tôt et je me couchais que dans la nuit du dimanche au lundi. Pourquoi ? Parce que le samedi soir, j'étais jeune, 15-16 ans, 16 ans, ce n'étaient pas mes amis, mais des hommes qui avaient 60, 65, 70 ans, ont joué au jeu, à l'argent. Je me souviens, c'était les voitures ondines venaient d'arriver sur le marché. C'était le prix de l'argent à 22 heures. À la table de jeu, il y avait 600 000 francs, 600 000 centimes. Quand vous commencez avec 600 000 centimes, c'est énorme, c'est énorme. Je me rappelle la première fois, je venais de toucher ma paye. J'avais travaillé durement pour avoir ma paye et j'ai perdu toute ma paye dans le cercle de jeu. Et toute la nuit, je jouais. Et le dimanche, j'allais aussi dans un endroit autre. Et le dimanche après-midi, je recommençais dans la nuit dimanche à lundi. Et dans la semaine, je venais aussi jouer. C'est terrible quand vous êtes lié par le jeu. J'étais lié par le poker. J'étais lié par le tarot. Tous les jeux d'argent, je jouais à l'argent. Alors oui, autrefois, je pouvais dire j'étais lié par ça. Mais quand j'ai servi Christ, ma vie, elle a changé. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. C'est là quelque chose d'extraordinaire. Vivez votre vie, jeunes gens, jeunes filles. Prenez des temps de loisir. Allez vous promener le long de la Loire et vous verrez la nature comme elle est formidable. Vous direz merci Seigneur pour toutes ces choses. Détendez-vous, mais prenez le temps de lire votre Bible. Prenez le temps de lire la parole de Dieu. Parce que vous avez des filles, des garçons qui sont en cours avec vous, qui ont sombré dans l'occultisme, qui ont sombré dans d'autres choses, dans d'autres addictions, dans d'autres impudicités. Ils sont pris, ils sont victimes. Un jour, j'entendais ce témoignage triste. Un garçon était tombé dans la drogue. Il vivait dans la cave. Et puis, un jour, il est sorti de la cave. Il a été rencontré par le Christ et délivré. Et son propre père lui dit, « J'aurais préféré te voir mourir dans la cave, parce que tu nous fais honte de t'être converti à Jésus-Christ. » C'est terrible. C'est terrible. Il y avait à Ancenis, l'autre mercredi, un garçon, ou un vendredi, peu importe, un garçon toxicomane, l'héroïne, l'alcool, la cigarette. Il vient pour que l'on prie pour lui. Et puis à la sortie, je lui dis, mais où est-ce que vous habitez? Dit, je suis SDF. Dit, j'amènerai un colis. Mais dit, je suis hébergé chez tel chrétien. Et quand j'ai revu ce garçon cette semaine, il me dit, la drogue, j'ai arrêté. L'alcool, pas encore. Ni la cigarette. Mais son visage était changé déjà. Et il m'a fait la collade. Il était content. Ah, ça c'est formidable. C'est extraordinaire. C'est merveilleux quand on voit des garçons et des filles qui sont relevés, des hommes et des femmes qui sont relevés, qui sont transformés, qui sont régénérés. Oui, vos fils et vos filles prophétiseront. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne sa grâce. Je me souviens de cette jeune fille, les jeunes rentrés d'un camp de jeunesse. Et alors, le mardi soir, ils nous ont enflammé la réunion, les jeunes. Oh, on était émerveillés. Et je me suis dit, il ne faut pas que le feu s'éteigne aussi vite que ça. Alors j'ai dit aux jeunes, jusqu'à vendredi, là, on va se retrouver tous les matins, là, on va prier, on va lire la Bible. Et puis, tout à coup, il y avait aussi une jeune fille, un converti, qui n'avait pas pu se joindre au camp. Et puis, l'Esprit de Dieu me dit, impose les mains pour les dons spirituels. Et je suis descendu. Et j'oublierai jamais qu'une jeune fille, elle avait 12 ans à cette époque, qui est baptisée de l'Esprit, avait reçu l'interprétation. Et tout à coup, elle parle en langue. Mais c'était enflammé dans un équilibre extraordinaire. Et puis quelqu'un interprète. Et c'était très précis. Et ce don spirituel disait « Lève-toi », etc. Il y avait un danger sur cette jeune fille. Et après, on a dit « On va prier pour la personne qui est en danger, la jeune ». Parce qu'elle s'était levée et puis s'était retrouvée à genoux. Et puis elle n'a pas su saisir. Elle a vécu maritalement pendant 2 ans. Elle avait un petit bébé. Et puis, se rendant à son travail, elle a glissé là dans son usine. L'huile a pris feu. Elle a été brûlée. Je veux croire que dans les 3 semaines, ou si elle a été consciente, je ne sais, mais qu'elle a pu se repentir, se convertir. Mais Dieu l'avait informée du danger. Dieu sait le danger. Dieu sait ce que demain nous attendra. Dieu le sait. Dieu le sait. Un jour, je quittais, nous habitions Rosé, et j'allais sur Saint-Nazaire pour faire une mission. Et dans le train, je reçois une révélation que j'allais avoir un malheur. Je n'ai pas dit, Seigneur, je te remercie pour le malheur que tu me révèles, je l'attends. Mais tout de suite, je me suis mis à lier ce malheur. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, cette révélation m'a amené à prier de tout mon cœur. Et quand je suis arrivé à Saint-Nazaire, j'ai prié. Et le samedi après-midi, je suis revenu. Il y avait des manifestations à cette époque qui cassaient tout aussi. Puis mon épouse arrivait à la maison, me dit, tu sais, Sarah, elle m'a échappé. Elle avait 2 ans, donc ça fait des années en arrière. Elle dit, sur la route, une voiture s'est arrêtée juste à côté d'elle. Elle aurait été tuée. Et tout de suite, un monsieur l'a pris dans ses bras. Oui, le diable voulait détruire, mais Dieu avait révélé, et j'avais prié, nous avions prié. Dieu est celui qui nous protège, celui qui nous garde, qui nous protège, qui nous donne sa grâce, sa bénédiction. Vos jeunes gens et vos jeunes filles prophétiseront, vos fils, vos jeunes auront des visions. Des visions. Et vos vieillards auront des songes. Soyons équilibrés. Moïse, qui parlait face à face avec Dieu, Dieu ne lui parlait pas toutes les secondes, ne lui parlait pas toutes les heures. Et quand des chrétiens viennent me dire sans cesse, vous savez, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, ils sont constamment en train de dire, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a révélé. C'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que dans la Bible, on ne va pas toujours. La vie de l'Esprit ne fait pas de nous des déséquilibrés. La vie de l'Esprit fait de nous des gens équilibrés. Ne croyez pas en toutes ces révélations ou autres. Et qu'est-ce qui est au-dessus de nos révélations, de nos songes, de nos visions, c'est la parole de Dieu. Et tout doit être conforme dans cette période où tout est ravagé. L'Église doit se lever, prier Dieu de tout son cœur, qu'il y ait plus de monde encore aux réunions de prière. Et le fardeau de Dieu sera sur nous. Et nous allons continuer à prier pour nos enfants. Nous allons continuer à prier pour notre jeunesse. Nous allons continuer à prier pour cette jeunesse qui ne connaît pas Dieu. Nous allons continuer à prier pour nos personnes âgées. Nous allons continuer à prier pour les couples. Nous allons continuer parce que si tout est ravagé, dans l'Église, rien ne doit être ravagé. Rien ne doit être ravagé. C'est à nous de veiller. C'est à nous d'être triomphants et de remporter la victoire parce que le Seigneur est avec nous. Que Dieu vous bénisse. Dans les derniers jours, il nous faut annoncer le message de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. En prie le Seigneur.